Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Célier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'actualité. Alors des heures très très foot à venir, puisque nous connaîtrons d'ici allez, une heure les adversaires des Bleus pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort va débuter dans quelques secondes. Les premières boules seront tirées très précisément dans une demi-heure. Vous allez vivre cette cérémonie avec nous, RTL Soir, un peu spécial avec en fil rouge notre envoyé spécial à Doha, avec notre invité de 18h15, Frédéric Ancel, spécialiste du pays. Nous lui demanderons si un mondial au Qatar, ça a vraiment du sens et pourquoi ça fait tant polémique. Et puis, après 18h30, le tirage en temps réel, décryptage, analyse, commentaire, avec toutes les voix du foot réunies ici dans le studio de RTL Soir. Les autres titres de l'actualité dans votre journal imminent. Bonsoir Antoine Cavaillerou.
Bonsoir à tous. L'affaire des pizzas Buitoni, des enfants envoyés à l'hôpital à cause de la bactérie E. coli. La parole à un père en colère. Pour la première fois au procès du 13 novembre, des images de l'assaut du Bataclan, vive émotion. Reportage exceptionnel aussi en Ukraine, à quelques kilomètres de la ligne de front, la résistance ukrainienne à l'œuvre.
À 18h30, demandez le programme J-9 avant l'élection et qui propose quoi exactement pour votre porte-monnaie. À 19h15, comme chaque vendredi, ils refont la France. Amandine Bégaud et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Du football bien sûr, mais pas que.
Mais pas que, on parlera présidentiel, temps de parole, ce casse-tête, est-ce que ça existe à l'étranger? Puis le 1er avril, poisson d'avril à l'étranger ou pas?
Ah oui, est-ce et que ben c'est oui. seulement français?
Alors non, ils font des blagues, mais pas avec le poisson.
Ça c'est une bonne question, super débat. Et puis des points météo, des points neige aussi, tout au long de l'émission avec Céline D'Acosta. Bonsoir Céline.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance pour les heures qui viennent et demain?
Alors de la neige ce soir, sur les Pyrénées, le Massif central surtout. Encore de la neige demain, des Pyrénées au flanc est. Le soleil lui reviendra par l'ouest, mais toujours dans une ambiance hivernale.
On détaille ça dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Célier, Antoine Cavaillerou.
Et à 8 mois de la Coupe du Monde de foot, nous sommes au Qatar. Bonjour Nicolas Georgerome.
Bonjour.
Envoyé spécial de RTL à Doha, vous suivez ce tirage au sort tant attendu. La cérémonie a commencé, tous les regards tournés vers le centre des congrès de Doha.
Oui, le compte à rebours s'affiche 233 jours avant le coup d'envoi de ce mondial, le premier dans la péninsule arabique. Cérémonie qui a débuté tout juste. Idriss Elba, l'acteur britannique, ainsi que Rashmin Chowdhury, journaliste sportive, vont animer ce grand rendez-vous à venir. Discours de l'émir du Qatar, discours de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Toutes les délégations sont arrivées peu à peu depuis une heure et demie pour prendre place dans cet immense centre des congrès. Tout à l'heure, l'Allemand Lothar Matthäus, le Brésilien Cafu, ancien champion du monde, officieront avec d'autres anciens joueurs donc pour le tirage au sort.
Et le tirage au sort qui débute dans une demi-heure, forcément côté équipe de France, on rêve d'un tirage comme en 2018.
Oui, c'est certain, Australie, Pérou, Danemark à l'époque, mais il y a quelques adversaires dangereux à éviter comme les Pays-Bas absents en Russie et cette fois qualifiés, l'Allemagne, l'Uruguay parmi les nations du chapeau 2. Il y aura sans doute également une équipe asiatique ou sud-américaine dans le groupe de la France. 8 poules de 4 vont être tirées, les deux premiers de chaque groupe iront en 8e de finale. À noter un élément important, on va connaître ce soir les affiches du premier tour, mais pour les horaires précis et les lieux, donc les stades, il faudra encore attendre quelques heures car les diffuseurs télé des différents continents vont devoir s'accorder.
Merci Nicolas. Et les fameux petits papiers, ils vont être tirés les uns après les autres à partir de 18h35 très précisément, donc entre 18h35 et 19h on vivra ce tirage en temps réel avec toutes les voix du foot de RTL en studio. Après la chaleur du Qatar, gros choc thermique, ce n'était pas une blague de Louis Baudin. Il a bien neigé en ce 1er avril et il y a 19 départements qui ce soir sont toujours placés en vigilance orange.
Et vous avez été nombreux à vous réveiller avec des flocons en Normandie, dans le Nord ou encore en région parisienne. Sur ces régions, ça a tendance à fondre, à s'estomper. La neige va maintenant descendre plus au sud. Le Massif central, les Alpes, les Pyrénées et même la Corse sont désormais les plus concernés. Guillaume Frixon, vous étiez aujourd'hui à Nébouza, dans le Puy-de-Dôme. Il a fallu ressortir pelle et moufle.
Oui, exactement. Et même si la neige avait beau être annoncée, elle a tout de même surpris les habitants ce matin, comme à l'auberge de la Moreno, où le réveil s'est fait par moins 5 degrés et Alexandra Dubernat a ressorti la pelle à neige du garage.
Ça ne nous avait pas manqué, non? Au mois d'avril, on pense plus aux pâquerettes, aux jonquilles et au soleil. qu'à la neige, mais ma foi, c'est comme ça. C'est l'Auvergne.
Alors avec des chutes de neige continues tout au long de la journée sur le département du Puy-de-Dôme, le réseau secondaire pouvait être délicat par endroits. Alors Gisèle, retraitée, a conduit très, très prudemment.
J'aime mieux le froid sec, mais pas le vent. Le vent et la neige, bon, c'est... Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec.
À Nébouza, il y a entre 5 et 10 cm de neige, du verglas également. Alors, la tournée du jour de la postière s'effectue comme au beau milieu de l'hiver.
On ne prend pas la tournée dans le même sens. Par exemple, là où ça monte, on ne s'arrête pas en montant. Je vais m'arrêter en descendant.
On s'en serait passé?
Tout à fait.
Et les chutes de neige vont se poursuivre demain jusqu'à 25 cm. Elles sont attendues à partir de 800 mètres d'altitude.
Ouais, dans toute la France, hein, les 19 alertes neige-verglas courent jusqu'à demain matin.
L'Institut Pasteur n'a jamais vu une telle épidémie de la sorte. Plus de 40 contaminations liées à la bactérie E. coli, c'est l'affaire des pizzas Buitoni.
Uniquement des enfants, ils souffrent d'insuffisance rénale. Deux sont décédés. Le lien avec les pizzas reste à établir. Liam a 7 ans, il fait partie des premiers cas recensés. Fin janvier, il a été hospitalisé à Paris pendant 2 semaines. Il va devoir consulter tous les 6 mois à présent, vérifier l'état de ses reins. Son père Geoffrey témoigne au micro RTL d'Agathe Landais.
Il se levait plus, il pouvait plus marcher. Il était porteur d'une couche parce qu'il se faisait sur lui. Il passait son temps à dormir. Moindre petite chose qu'il mangeait, il vomissait. Pareil pour le liquide. Il était pas bien, il parlait pas, il était blanc. Enfin, on le reconnaissait pas. C'est terrible. On peut rien faire et à part regarder notre fils gémir et pleurer de douleur. Pour l'instant, il n'a pas de séquelles apparentes. Il vit comme avant. Mais apparemment, ils l'ont suivi à vie en néphrologie. Celui, c'est surtout les reins qui ont été touchés. On n'imagine pas que, on veut faire plaisir aux enfants, on leur fait une pizza surgelée, et puis vous avez votre fils qui finit à l'hôpital. C'est pas possible d'en arriver là.
Document RTL obtenu par Agathe Landais et comme d'autres familles de victimes, Geoffrey compte engager des poursuites. De son côté, Nestlé, qui détient cette marque Buitoni, enquête dans son usine dans le Nord. 2 lignes de production ont été arrêtées. Moins d'une semaine après la mort d'un automobiliste à Sevran, le parquet requiert la poursuite du policier, l'agent auteur du tir mortel. Le parquet demande sa mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le fonctionnaire en question assure s'être senti en état de légitime défense. Le drame avait conduit à 5 nuits de tension en Seine-Saint-Denis.
On en vient maintenant à ces heures éprouvantes aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Pour la première fois, des photos, des extraits sonores de l'assaut du Bataclan ont été diffusés.
Ouais, c'était une demande d'association de victimes, mais qui faisait débat parmi les rescapés. La salle était comble. Au moins 400 parties civiles présentes, du jamais vu. Cindy Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à l'audience du jour. Premier extrait diffusé, le début de l'attaque.
Les coups de feu retentissent dans la cour d'assises, puis on entend la peur, les cris, le son étouffé des râles et ce calme absurde qui suit. À ce moment-là, certains sont morts, d'autres font les morts, ils tentent de fusionner avec le sol en silence, tout en réfléchissant à la meilleure manière de s'en sortir. Le président s'apprête maintenant à diffuser des images choisies. La cour se retrouve dans l'obscurité, plongée dans la fosse. Le parquet est rouge de traînées de sang, la lumière blanche des néons éclaire les victimes, enchevêtrées, entremêlées, on ne sait plus quel est le bon terme. On comprend alors ce qu'ont voulu dire les rescapés quand ils parlaient de piles de corps. Dans la salle d'audience, certaines parties civiles se recroquevillent sur les bancs, d'autres pointent du doigt l'écran alors qu'on chemine vers le balcon et les loges. Ils ont reconnu une chaussure, le pull rouge d'un ami ou d'une épouse. Sandrine, elle, n'a pas fermé les yeux une seule fois.
C'est violent à voir, j'appréhendais de les voir, ces photos, et en fait, en les voyant, je me rends compte qu'elles sont toujours en dessous de l'horreur de ce que j'ai pu vivre.
Sur ces images, il manquera toujours l'effroi et cette odeur de terreur indescriptible, souffle la rescapée. Salah Abdeslam, lui, n'a pas quitté les yeux de l'écran aux premières loges depuis le box.
Le récit de Cindy Hubert.
Dans un instant, ce journal va se poursuivre dans RTL Soir avec notre reportage, le reportage de nos envoyés spéciaux aux côtés des résistants ukrainiens au plus près de la ligne de front. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Comment l'Ukraine résiste à l'armée russe? Nous vous emmenons ce soir dans un petit village, le village de Bachtanka.
Ouais, c'est près de Mykolaïv. Nos reporters ont pu se rendre dans cette zone très proche du front, dans le sud de l'Ukraine. Valentin Boisset, vous avez pu rencontrer la maire d'une commune voisine obligée de se cacher des forces russes.
Ses affaires se résument à quelques vêtements. Svetlana se réfugie aujourd'hui à Bachtanka, son village Blouchiv, qui est occupé par les Russes à quelques kilomètres d'ici depuis 3 semaines.
D'abord, il y a eu cette colonne de blindés russes devant chez moi. Ils avaient tous des grosettes blanches sur les flancs. Ils se sont installés au centre-ville et dans le village, on ne pouvait pas se défendre. Ils sont allés dans chaque maison avec leurs fusils, puis ils nous ont dit qu'on avait 10 minutes pour partir, sinon ils tireraient sur nous.
Ceux qui sont restés sont des gens malades, des personnes âgées. Sur son téléphone, elle nous montre les armes retrouvées dans des champs aux alentours, des têtes de bombes à fragmentation. Les magasins sont désormais vides.
Désormais, c'est la catastrophe humanitaire. Les magasins sont vides et les Russes ne distribuent même pas de pain. J'ai emmené mon fils le plus loin possible, puis je me suis cachée car ils ont enlevé les maires des villes aux alentours.
Aujourd'hui, dans son centre-ville, les combats se poursuivent. Svetlana espère une libération du village dans les prochains jours.
Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, Valentin Boisset. L'évacuation de Mariupol n'a toujours pas débuté. Toujours dans le sud de l'Ukraine, les civils toujours pris au piège.
J-9 avant le premier tour de l'élection présidentielle, les candidats accélèrent leur rythme. Éric Zemmour était ce matin à Rungis, déambulation dans les allées du marché de Gros.
Le candidat d'extrême droite à la rencontre de la France qui se lève tôt, mais quelque peu bousculé devant les étals. C'est ce que vous avez constaté, Thomas Després.
Bonjour tout le monde.
Anto, Éric Zemmour a passé plus de 4 heures ce matin sur le plus grand marché de France, une étape incontournable des campagnes électorales.
Je suis venu voir les artisans, les travailleurs du matin. Moi, c'est la France que je défends, c'est la France que j'aime.
Une France que le candidat de Reconquête aime, dit-il, mais qui ce matin l'a un peu chahuté. Parce que dans les allées de Rungis, que ce soit aux fruits et légumes ou à la viande, on vient d'un peu partout.
Vous avez vu les têtes, hein, il y a beaucoup d'étrangers ici.
Ah oui, ça. Je l'ai entendu, je crois, ça.
Eh oui, hein.
Eh ben, encore un manien, décidément.
Éric Zemmour, semble-t-il, amusé, mais qui ce matin n'a pas arrêté d'être mis face aux angles morts de son programme d'immigration zéro.
Ici à Rungis, tout notre personnel, ce ne sont que du personnel immigré, qui sont des gens extraordinaires.
Mais je n'ai rien contre les immigrés. Donc, travail.
Est-ce que ça ne vient pas justement contredire votre...
Non, on peut très bien arrêter tout le reste de l'immigration.
Voilà, et pour continuer sur cette lancée, le candidat de Reconquête sera demain dans le sud de la France, en campagne, pour un déplacement où il devrait parler à nouveau de sa théorie du grand remplacement.
Un reportage de Thomas Després du service politique.
C'était le jour tant attendu dans les stations essence. Ça y est, la ristourne de 18 centimes s'affiche sur les panneaux.
Dans la plupart des stations, le litre de carburant repasse sous les 2 euros. Des automobilistes souvent soulagés. Certains ont attendu le tout dernier moment pour passer à la pompe, comme Yann, chauffeur de taxi dans le Morbihan.
Ah oui, je suis sur la réserve là. L'ordinateur de bord m'indique 90 km sur 1300 normalement. Ben j'aurais dû faire le plein hier de par les kilomètres que j'avais prévu, mais j'ai préféré attendre aujourd'hui pour la baisse du gasoil, enfin pour la baisse du prix. À 18 centimes demain, oui, ça fait du bien. Hein. Oui, j'ai un client à l'arrière. j'ai pas le choix, je suis obligé de faire le plein même quand il y a du monde dans le taxi. Voilà. Alors,
la douloureuse est d'un
96 euros. J'ai fait le plein il y a 3 jours. J'en ai eu pour 127. Voilà, donc c'est pas négligeable. Ça fait toujours du bien.
Yann, chauffeur de taxi au micro RTL de Nicolas Bobby.
Merci beaucoup Antoine, à tout à l'heure. Le temps pour ce soir, pour cette nuit, pour demain, chère Céline, ça va donner quoi? Continue de neiger, c'est ça?
Il continue. Alors là en ce moment, pour le nord du pays, c'est plus neige mêlée. Hein. Ça a été ça un petit peu toute la journée. Les régions où la neige va être le plus présente ce soir, c'est sur le Massif central et surtout sur les Pyrénées au-dessus de 400 mètres et en moyenne montagne où là il va bien neiger. On attend jusqu'à 15 à 20 cm, jusqu'à 50 cm localement sur les Pyrénées. Demain matin, on va retrouver de la neige entre les Pyrénées, le Massif central, le flanc est et les Alpes, et ça toute la journée, même si ça va s'atténuer dans l'après-midi. Le matin, ça va tenir sur les sols, sur les reliefs au-dessus de 300 mètres d'altitude. En plaine, on pourra avoir 2 à 5 cm au sol le matin autour des villes, mais là encore, ça ne va pas tenir l'après-midi puisqu'on aura le retour de ces pluies et neige mêlées. Ça va s'atténuer, le soleil lui va revenir par l'ouest dans l'après-midi, ce sera plutôt agréable, même si il va y avoir encore cette ambiance hivernale puisque le vent va bien souffler. Quant aux températures, dégelées, attention aux gelées demain matin, quasi généralisées. Et puis l'après-midi, on repart sur une journée hivernale avec des températures 5 à 8 degrés sous les valeurs de saison.
Merci Céline. Dans un instant, ce RTL Soir spécial tirage au sort du Mondial. Ce que vous entendez derrière, c'est l'hymne du Mondial. Il va falloir l'apprendre par cœur, chère Céline. Ce RTL Soir un peu spécial va se poursuivre. Mondial au Qatar. Pourquoi ce pays de la taille de la Gironde mise tout sur le foot? Pourquoi le choix du Qatar fait polémique? On va poser ces questions à Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient. Et puis on ira rejoindre une nouvelle fois notre envoyé spécial sur place. A tout de suite.
RTL Soir. On sait. RTL Soir, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde. Julien Cellier.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir spécial, effectivement, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous l'avez compris, la cérémonie vient de débuter, mais les fameux petits papiers, les petites boules, ce sera tout à l'heure à 18h35. Donc entre 18h35 et 19h, pendant une demi-heure, on va refaire le match, commenter en temps réel ce tirage, vous en dire plus sur les adversaires des Bleus, avec toutes les voix du foot de RTL en studio. En attendant, on va s'interroger. Un mondial au Qatar, est-ce que ça a vraiment du sens? Parce que les appels au boycott, au respect des droits de l'homme vont fatalement refleurir dans les heures qui viennent. Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes notre invité ce soir, spécialiste du Moyen-Orient, auteur des Voix de la puissance, paru chez Odile Jacob il y a quelques jours. Merci d'être avec nous. Et puis avec nous également, en fil rouge, notre envoyé spécial toujours à Doha, Nicolas Georgerot, qui a visité ces stades, les différents stades ces derniers jours. Rebonsoir Nicolas.
Rebonsoir.
Frédéric Ancel, Le Monde a donc là, ce soir, en ce moment, les yeux tournés vers le Qatar. Expliquez-nous, pourquoi le sport, pourquoi le foot, c'est si important pour ce tout petit pays qui, faut-il le rappeler, est déjà propriétaire du PSG?
Alors précisément, la réponse est dans votre question. C'est un tout petit pays. C'est un tellement petit pays qu'il ne peut pas envisager sérieusement devenir un jour une grande puissance. Ce pays est trop picrocolin d'un point de vue démographique et géographique et militaire pour pouvoir peser. Alors dans ce cas-là, comment on fait pour influencer de près ou de loin les relations internationales? Eh bien, on utilise le soft power. Et dans le soft power, vous avez la fameuse station de télévision Al Jazeera, dont il faudra un jour que les historiens établissent dans quelle mesure elle n'a pas fragilisé des régimes arabes qui se sont effondrés à l'époque du printemps arabe, mais c'est une autre question. Et puis, vous avez, pourquoi pas, le sport. Et là, on a affaire à une, j'allais dire, un cas d'école ou un cas chimiquement pur de volonté, de peser pas tant sur les grandes décisions internationales, le Qatar ne le peut pas, que de se faire connaître, de se faire apprécier par une partie des opinions publiques à travers donc le foot.
Venons-en au chantier de ce mondial qui a été tant décrié. La version officielle au Qatar, c'est une quarantaine de morts. Le quotidien britannique, le Guardian, qui a longuement enquêté, évoque lui 6500 morts sur une décennie sur toutes les constructions liées au mondial, les hôtels et j'en passe. Nicolas Georgerot, c'est quoi la réalité d'un chantier au Qatar, vous qui en avez croisé des dizaines ces derniers jours, parce que c'est un peu un émirat champignon?
Ben oui, au cœur de Doha, c'est sûr, vous ne pouvez pas faire une rue sans avoir des engins de chantier, des grues, des pelleteuses, etc. Et généralement, ben, pas très loin, vous avez ces dizaines de camionnettes, de bus qui amènent les ouvriers et qui les ramènent le soir dans les cités dortoirs bâties à l'extérieur de la capitale. La plus vaste, par exemple, accueille 70 000 travailleurs. Les chantiers ici, c'est 24 heures sur 24. D'ailleurs, aux alentours de 19 heures, vous voyez les relèves qui s'enchaînent. Chacun cherche aussi un peu d'ombre quand il peut, lors des pauses. Vous voyez ces ouvriers à l'ombre sous des parasols ou à l'ombre des véhicules.
Et Frédéric Ancel, est-ce que l'organisation de ce mondial, la FIFA a désigné le Qatar en 2010, a permis une amélioration du droit du travail là-bas?
Eh bien, malheureusement, la réponse est non. Et le véritable problème, et ça a été très bien dit il y a un instant, ce sont non seulement les conditions de travail de ces ouvriers qui proviennent pour l'essentiel d'Asie, d'Asie du Sud et d'Asie orientale. Deuxième point, c'est la question des droits de l'homme de manière générale. Et le troisième point qu'il ne faudrait pas oublier, c'est le soutien du Qatar à des régimes ou à des groupes qui sont très proches des Ikhwan, les frères musulmans, et notamment des branches violentes. Donc, sur trois niveaux, si vous voulez, on a une véritable problématique. Si vous ajoutez à cela une cerise sur le gâteau, vous me pardonnerez l'expression, qui consiste dans un climat qui réellement ne permet en aucun cas de pouvoir mener sérieusement des compétitions sportives, sauf à changer de saison, ce qui a été fait effectivement exprès pour le Qatar, mais ce qui ne permet absolument pas de vous assurer de faire ça dans de bonnes conditions sans que le bilan carbone ne soit absolument ridicule, on a effectivement un très 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 grave problème.
On va revenir sur plusieurs des points que vous venez d'évoquer. D'abord les droits de l'homme, précisez-nous Frédéric Ancel, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au Qatar? Est-ce qu'on peut parler de dictature comme l'a sous-entendu la présidente de la Fédération Norvégienne de Foot qui n'a pas mâché ses mots hier au congrès de la FIFA? Ça a fait beaucoup jaser.
Ça fait jaser, mais elle a raison. Enfin quelqu'un qui s'exprime de manière extrêmement claire. Vous n'avez pas le droit à la liberté d'expression, bien évidemment. La liberté de conscience, oui, enfin, à condition, bien évidemment, de ne pas justement faire de politique. Vous n'avez pas le droit de manifester, vous n'avez pas le droit de revendiquer des droits salariaux, des droits en termes de droits du travail, comme on les appellerait aujourd'hui. Et vous ne pouvez en aucun cas, d'une manière ou d'une autre, exprimer un autre point de vue que celui du régime en place. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi sur les droits religieux qui n'existent pas. Soit vous êtes musulman sunnite et de préférence de rite wahhabite, hein, celui qui est partagé avec l'Arabie saoudite voisine, dont vous apprécierez là aussi le très grand progressisme. Je mets ça bien entendu entre guillemets, et donc vous aboutissez à quelque chose qui ressemble effectivement à une forme de dictature tribale, comme l'a très bien rappelé effectivement cette déléguée.
Alors on voit effectivement des ONG qui ont appelé au boycott du mondial. On a l'impression que c'est un peu vain aujourd'hui, 12 ans après la désignation par la FIFA de ce pays. Nicolas Georgerot, Amnesty par exemple interpelle les Bleus. On a vu les joueurs allemands, eux, porter des t-shirts pour réclamer davantage de droits au Qatar. Vous qui suivez l'équipe de France depuis plusieurs années, Nicolas, pour l'instant, c'est pas du tout prévu par la Fédération française de foot, une telle opération?
Non, pas pour l'instant. Après, il y aura peut-être quand même des discussions avec certaines associations, mais surtout, la Fédération veut rester sur le terrain du sportif. C'est aussi pour cela que Didier Deschamps, le sélectionneur, dès la fin de 2021, avait posé clairement les choses. Pas d'instrumentalisation du sport, il y a des choix qui ne nous appartiennent pas, on va là où on nous dit d'aller. Ça, c'était des termes qu'il avait employés, mais la fédération a aussi dit très clairement par ailleurs qu'elle n'empêcherait pas un joueur de s'exprimer sur ces sujets si elle le souhaite.
Frédéric Ancel, c'est compliqué pour la France aujourd'hui en tant que pays, hein, de faire la leçon au Qatar, de se fâcher avec le Qatar parce que c'est devenu un investisseur important ici dans l'Hexagone, parce que c'est un interlocuteur qui est indispensable quand on veut parler avec les talibans par exemple.
Dans une certaine mesure, oui. Mais c'est pas seulement vrai pour la France. C'est-à-dire que le Qatar, du fait effectivement d'une diplomatie ou d'un soft power qui a réussi quand même, dans une certaine mesure, au Proche et au Moyen-Orient, à incarner un véritable acteur, effectivement, c'est pas évident. Le Qatar est un client de matériel stratégique français. Ouais. Alors moins que d'autres pays de la région. Je pense bien évidemment à nos alliés des Émirats Arabes Unis. Bon. Mais effectivement, c'est compliqué. Mais si vous voulez, c'est compliqué de manière générale. C'est-à-dire que lorsque, en 1978, un certain nombre de joueurs avaient exprimer des réserves, on pense notamment au glorieux Dominique Rocheteau sur le fait qu'on allait jouer au sein d'un pays dictatorial.
En Argentine,
finalement, ouais. Voilà. Donc finalement, l'essentiel des équipes et des joueurs des équipes étaient allés jouer. D'ailleurs, la totalité, ouais, si ma mémoire est bonne. Bon, alors ça a posé des problèmes et puis finalement, on y est allé parce que il est vrai qu'il faut pas mêler la politique et le sport, mais en même temps, le sport fondamentalement relève en principe de la fraternité. Or, la fraternité au Qatar, si vous voulez, c'est un phénomène quand même extraordinairement nouveau.
Pour terminer avec vous deux, je voudrais aborder la question écolo. Vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, Frédéric Ancel. C'est vrai que des stades avec la clim dans le désert, ça fait polémique. Nicolas, vous les avez visités, ces stades. Ils ont effectivement la clim. Elle servira en novembre, là, pendant le mondial?
Alors, 7 des 8 stades en sont équipés et le Qatar a bien compris que c'était devenu un sujet embarrassant au fil des années, évidemment. Alors, la Coupe du Monde aura lieu en novembre, décembre, température moyenne 24-25 degrés. Et les systèmes de refroidissement permettent de maintenir la pelouse et de faire une bulle pour les spectateurs autour de 21-22 degrés. Donc ce ne sera pas utilisé systématiquement. Et puis d'ailleurs, il faut aussi rappeler tout simplement qu'au Mexique en 86 ou encore aux États-Unis en 1994, il y a eu des matchs sous des températures caniculaires et même au dernier Euro, en Hongrie, il faisait 35 degrés. En revanche, le Qatar veut maintenir cette clim pour se servir des stades tout au long de l'année, même lorsqu'il fera 45 degrés dehors.
Frédéric Ancel, le Qatar, c'est le pays au monde avec la pire empreinte carbone par habitant. C'est franchement pas une priorité, l'écologie, c'est ça?
On appréciera votre sens de la litote. Ah ben non seulement c'est pas une priorité. Ah non, mais attendez, non mais le régime s'en fiche, mais totalement. On est là, effectivement, sur une aberration, en réalité, qui vient percuter toutes les considérations les plus sérieuses, les plus scientifiques, quant au réchauffement de la planète. Non, là, on est, là, je crois que vraiment le mot qui s'impose, c'est, de ce point de vue-là, en tout cas, sur le plan climatique, c'est le terme de aberration.
Merci beaucoup, Frédéric Ancel, spécialiste du Moyen-Orient, de nous avoir éclairé sur ce tout petit pays. Et merci à vous, Nicolas Georgerot, l'envoyé spécial à Doha. On va vous retrouver, bien entendu, dans quelques minutes pour le tirage au sort. On va connaître les adversaires des Bleus dans ce mondial qui, donc, fait polémique. Merci à tous les deux.
RTL Soir, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde. Julien Cellier.
Et dans un instant, RTL Soir continue avec tout autre chose. Demandez le programme, nouveau rendez-vous, vous le savez, depuis le début de la semaine. Nous sommes à 9 jours de l'élection présidentielle. Ce soir, au-delà du carburant qui cristallise un peu la tension, qui propose quoi parmi les candidats pour votre pouvoir d'achat? Et puis laissez-vous tenter dernière avec un artiste voyageur. On va vous offrir quelques cartes postales. On en a bien besoin avec ce temps pourri. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Comme...
Bonne fin de journée, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et avec Antoine Cavaillé-Roux, qui vous rappelle maintenant les grands titres de l'actualité en cette fin de journée.
Et oui, nous sommes en direct de Doha. Nicolas Georgerot, vous suivez le tirage au sort pour RTL. Didier Deschamps doit déposer le trophée de la Coupe du Monde avec un supporter français.
Oui, dans quelques instants, un petit peu de retard dans ce tirage au sort, mais Didier Deschamps va donc apporter ce trophée de la Coupe du Monde. C'est à l'instant avec Joris, un jeune supporter français accompagné de son père et de sa sœur, et ils apportent la Coupe du Monde sur la scène de ce centre des congrès
ici
à Doha.
On doit la rendre en fait, c'est ça le problème.
Et oui, en la reprenant peut-être en décembre, mais d'abord il faut la rendre.
Merci Nicolas, on vous retrouve dans quelques instants pour le tirage au sort. Les autres titres, ruée sur les stations essence, malgré la neige et le verglas, les automobilistes ont fait la queue. Profitez de la ristourne gouvernementale. 18 centimes dans l'Hexagone. Le litre de carburant repasse sous les 2 euros dans la plupart des stations. Après 37 jours de guerre en Ukraine, les négociations entre Kiev et Moscou ont repris. La Russie reste sur une ligne dure. À Mariupol, ville martyr du sud de l'Ukraine, l'évacuation des civils n'a toujours pas débuté.
Merci Antoine. Et un mot du temps, pour les prochaines heures et pour demain, chère Céline, qu'est-ce que ça va
alors,
donner?
Alors, encore de la neige pour les prochaines heures, surtout sur le Massif central et les Pyrénées. Demain, notre perturbation neigeuse va se décaler vers l'est. Toujours 19 départements, vigilance orange pour neige-verglas entre le Massif central, les Alpes, les Pyrénées et la Corse. C'est là qu'elle va se localiser demain, cette neige, avec le retour d'éclaircies quand même par l'ouest, même si pour la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, on aura encore quelques averses. Et puis, du vent, un vent fort, 50 à 80 km/h dans les terres, jusqu'à 110 demain matin sur les crêtes corses. Quant aux températures, dégelées demain matin et demain après-midi, on aura à peu près les mêmes températures qu'aujourd'hui. On est toujours bien en dessous des normales de saison.
Soyez prudents sur les routes ce soir en écoutant RTL.
Présidentielle 2022.
Demandez le programme.
10-9 avant le premier tour de cette élection présidentielle, vous en avez pris l'habitude tous les soirs à 7h06, c'est demander le programme. Qui propose quoi? Qui propose quoi pour votre pouvoir d'achat? On parlait du carburant à l'instant qui a quelque peu cristallisé la tension ces dernières semaines, au-delà de l'essence. Quelles idées pour vous aider en fin de mois? Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Les 12 candidats partagent un constat, il faut augmenter les salaires.
Oui, et plusieurs solutions sur la table. Augmenter le salaire minimum, le SMIC, c'est ce que disent tous les partis de gauche et Jean Lassalle. Le SMIC est à 1269 euros net par mois. Il faut passer tout de suite à 1400, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est du même ordre de grandeur pour Anne Hidalgo. Yannick Jadot et Fabien Roussel veulent arriver à 1500 euros net sur le quinquennat. Lutte ouvrière voudrait arracher le SMIC à 2000 euros, c'est l'expression de Nathalie Arthaud. Pour les fonctionnaires, le président sortant Emmanuel Macron a annoncé le dégel du point d'indice à l'été, s'il est réélu. C'est aussi au programme des écologistes et des communistes. Et puis, il y a les salaires de tous les autres Français dans les entreprises privées. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan veulent accompagner la hausse des rémunérations avec des baisses et des exonérations de charges sociales, en mode donc incitatif. Pour les candidats de gauche, il s'agit plutôt d'obliger les entreprises à mieux payer leurs salariés. Emmanuel Macron, lui, s'appuie essentiellement sur des mesures déjà décidées au cours de son mandat et qu'il veut renforcer, comme la prime dite Macron, qui pourrait être triplée sans charge.
Autre levier, baisser la TVA.
Oui, c'est l'impôt que tout le monde paye. Ouais. Alors, à part La République En Marche, tous les autres candidats promettent des réductions au choix. Baisse de la TVA sur les hydrocarbures, sur l'électricité ou plus largement sur l'énergie ou encore sur les produits de première nécessité. Les écologistes prévoient une TVA à 5,5% sur les transports collectifs et une TVA à 0% sur l'alimentation bio. Le NPA et Lutte Ouvrière veulent carrément supprimer la TVA.
Et puis, il y a tout plein d'idées dans ces programmes, plus ou moins originales pour booster le pouvoir d'achat.
Alors, quelques quelques exemples. Financer l'isolation des logements pour baisser les dépenses de chauffage, dit Yannick Jadot. Renationaliser les autoroutes pour baisser de 15% les tarifs de péage, pour Marine Le Pen. Allocation familiale dès le premier enfant pour Valérie Pécresse et aussi les écologistes. La cantine scolaire gratuite pour Jean-Luc Mélenchon. Ou encore la suppression de la redevance audiovisuelle pour Éric Zemmour, Marine Le Pen. Et c'est aussi dans le programme d'Emmanuel Macron.
Demandez le programme. Le programme pour votre pouvoir d'achat, pour que vous puissiez à la maison faire votre choix avec Marie Guerrier ce soir sur RTL. Merci Marie.
Présidentielle 2022.
Demandez le programme.
18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Allez, laissez-vous tenter dernière maintenant, et même laissez-vous tenter dernière se met à l'heure Coupe du Monde, parce qu'on va voyager aujourd'hui avec Julia Molcou qui est avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On va voyager, on va écouter de la musique, et même dans des pays qui parfois ne sont pas qualifiés. You know I'll wait for a few more days. Eyes on the prize just to keep me sane. Don't make me sleep that long.
Chers amis auditeurs, laissez-moi vous présenter Oscar Anton, ce jeune auteur-compositeur-interprète originaire de l'ouest de la France et qui depuis janvier, un vendredi par mois, nous envoie donc une carte postale musicale d'une ville, et à chaque fois il est accompagné par un ou une artiste originaire de la ville en question.
C'est un super concept,
c'est
ça.
C'est un super concept, et là il nous écrivait de Milan avec l'artiste italienne Vivi.
Tous les mois, un nouveau morceau. Il était où, par exemple, en février ?
Eh bien, en février, Oscar Anton est allé à Berlin rendre visite à son copain chanteur, Phil Boriva. Et voilà leur carte postale. Sunscreen on my face, nothing on my mind. Ice cubes in my hands, let me say goodbye. Si mes calculs sont bons, l'Espagne est qualifiée. Et en mars, c'est bien de Madrid qu'il nous a écrit à quatre mains avec la jeune Dani.
Et là, nous sommes le 1er avril, donc il y a forcément une nouvelle carte postale de ce Oscar Anton en approche.
Oui, 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 elle sera postée vendredi prochain avec l'artiste Nili Peck. Elle nous viendra d'Istanbul, mais nous, on l'a déjà en exclu sur RTL. All the other boys were dreaming of a throne.
No castle but stand. C'est joli, non, comme voyage.
C'est très joli, on imagine bien les couchers de soleil sur le Bosphore, sur cette magnifique ville d'Istanbul. Merci de nous avoir
comme
fait...
Comme vous êtes poète.
Mais oui, à mes heures perdues. Je ne suis pas qu'une brute. J'ai aussi un petit cœur qui bat. Merci, Julia Molcou, de nous
salut,
avoir
Julien,
fait voyager en ce jour de tirage au sort de Coupe du Monde. Merci.
RTL, revivre ensemble.
Allez, une petite pause et ensuite ce tirage au sort justement de la Coupe du Monde au Qatar. Vous allez le vivre en temps réel dans RTL Soir. Vous allez connaître les adversaires des Bleus. On va les commenter, les affiches, on va les décrypter avec toutes les voix du foot de RTL qui sont en train de s'installer ici en studio. Jusqu'à 19h, on parle foot dans RTL Soir. A tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier, RTL Soir, édition spéciale, tirage au sort de la Coupe du Monde.
18h39, RTL Soir, toujours à vos côtés en cette fin de semaine. Il va vous falloir vous habituer à cette petite musique que vous entendez derrière nous, parce que c'est l'hymne de la Coupe du Monde au Qatar. Le tirage au sort va débuter dans quelques secondes. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les fameux petits papiers et les premières boules qui vont être tirées. Donc normalement, si tout va bien, en général au Qatar on est à l'heure. D'ici une demi-heure, nous connaîtrons les adversaires des Bleus et toutes les affiches. Jusqu'à 19h, le tirage à vivre sur RTL. On va le décrypter, on va le commenter avec les voix du foot ici dans la maison RTL en studio pour refaire le match en quelque sorte. Il y a Philippe Sansfourche, il y a Eric Silvestro, il y a Xavier Domergue, il y a Giovanni Castaldi. Bonsoir les amis.
Bonsoir. Bonsoir.
Et à Doha, il y a notre envoyé spécial Nicolas Georgerot qui, contrairement à nous, ne grelotte pas en ce moment. Rebonsoir Nicolas.
Rebonsoir.
Alors il faut expliquer à nos auditeurs comment ça va se dérouler. Déjà, il y a quatre chapeaux, c'est ça, Philippe Sansfourche. Toutes les équipes sont d'ores et déjà rétablies et
oui,
placées dans quatre chapeaux.
Alors vous savez, c'est traditionnellement, il y a les têtes de série. Il y a le chapeau 1 dans lequel se trouve
le pays organisateur qui est le Qatar. Et pour le reste, bah, vous prenez tout simplement le classement FIFA le plus récent et vous allez retrouver le Brésil, la Belgique, l'équipe de France, évidemment, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Toutes ces équipes vont être réparties dans 8 groupes, en tête de 8 groupes différents. Et ensuite, on va dérouler comme ça avec le chapeau 2, chapeau 3, puis chapeau 4.
Alors, si on veut faire une petite simulation, Giovanni, par exemple, le pire tirage pour les Bleus, ce serait quoi?
Il faut rappeler, juste par rapport au tirage au sort, que hormis le continent européen, qui peut avoir deux représentants dans un même
groupe,
les autres poules ne peuvent pas, on ne peut pas avoir le Sénégal et le Cameroun dans la même poule. L'épouvantail pour tout le monde dans le chapeau 2, c'est l'Allemagne, parce que l'équipe de France pourrait se retrouver dans le même chapeau que l'Allemagne. On peut aussi avoir dans le chapeau 3 le Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Et après, forcément, le chapeau 4, on descend d'un étage. Mais pour moi, le pire tirage, ça serait Allemagne et Sénégal, chapeau 2 et 3 pour l'équipe de France.
Il faut craindre qui dans ce fameux chapeau 2 où globalement il y a de très bonnes équipes quand même. Allemagne, Pays-Bas aussi, c'est ça, Xavier?
Pas mal de nations à craindre, effectivement. L'Allemagne à tout prix, ça, je suis complètement d'accord.
Personne n'a envie de jouer les Allemands. On les a eu dans le groupe à l'Euro. Hein.
Oui,
on les a battus.
Oui,
ça s'est bien passé.
Mais en France-Allemagne, c'est toujours quand même un match très spécial, particulier. Il y aura un esprit de revanche du côté des Allemands. J'aime pas trop voir les Allemands revanchards. Donc voilà, les Pays-Bas, évidemment. Après l'Uruguay, je pense que c'est une nation aussi pas évidente à gérer.
Bon souvenir pour les Bleus. Les Bleus les avaient sortis en quart de finale de la Coupe du Monde 2018.
On cite jamais le Danemark, mais Danemark, c'est jamais une équipe évidente.
C'est pas facile.
Demi-finale de l'Euro.
À affronter.
C'est pas facile.
La Suisse, on sait.
On cite jamais la Suisse qui nous a sorti.
Et qui a quand même sorti l'Italie aussi. Dans la
ce que vous êtes en train d'expliquer aux auditeurs, c'est que globalement, on aura de toute façon dans notre groupe une grosse équipe tirée dans le chapeau 2.
Si c'est les États-Unis, ça va.
Les États-Unis sont le chapeau 2. Ça, c'est le meilleur tirage pour les Bleus.
Ah oui, clairement.
Ah oui, clairement.
Oui,
ils n'ont terminé que 3e de leur zone de qualif. Les États-Unis, franchement, ça, dans le chapeau 2, ça serait le meilleur tirage pour les Bleus.
La Suisse, effectivement, avec la dernière confrontation. Mais après, les Suisses, très souvent, on les tire. Globalement, moi, j'ai le souvenir, c'est en 2006. En 2006, on les avait dans le groupe. En 2014 aussi. Donc,
et surtout, le Danemark est un porte-bonheur également. Danemark est un porte-bonheur, puisqu'à chaque fois que l'équipe de France a été championne du monde, elle a eu le Danemark dans sa phase de poule.
Alors, il faut aussi expliquer aux auditeurs, ça peut paraître un petit peu bizarre quand on réalise comme ça un tirage au sort d'une Coupe du Monde, qu'en fait, c'est un peu un tirage à trous, parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas encore qualifiées totalement. C'est ça, Philippe, expliquez-nous.
Exactement. Alors, il va y avoir
c'est compliqué quand même.
Des barrages intercontinentaux. Non, c'est pas si compliqué que ça. Dans le dernier chapeau, il reste effectivement trois invités de dernière minute. Il va falloir faire des barrages. Alors, il y en a un qui est évidemment difficile à imaginer pour le moment, puisqu'il concerne en partie l'Ukraine, qui doit normalement jouer face à l'Écosse, mais évidemment, aucune date n'est prévue. Et ensuite, le vainqueur de ce match là jouera les Pays de Galles et on connaîtra donc l'un de ses concurrents. Il y a également le Pérou qui sera opposé soit aux Émirats Arabes Unis soit à l'Australie avec des pré-barrages et le Costa Rica face à la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des matchs qui se joueront le 13 juin à peu près et on saura ensuite vraiment précisément l'ensemble du plateau.
Et donc tous ces matchs vont se jouer là-bas au Qatar. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent simplement dans RTL Soir, on l'a dit déjà à plusieurs reprises dans cette émission, que c'est un pays qui fait à peu près la taille de la Gironde. Voilà, pour qu'on ait un petit peu un ordre d'idée. Nicolas Jean-Jean, vous êtes
Très bon choix
à la Gironde. Je vois qu'il y a des supporters des Girondins de Bordeaux.
Désolé.
Ils sont assez peu nombreux en ce moment, mais il y en a encore. Nicolas Georgerot, vous êtes à Doha, au Qatar, pour RTL. Vous les avez visités, ces stades? C'est quand même assez particulier, un mondial qui va se jouer comme ça sur une zone géographique si petite, si réduite.
Oui, ce sera la première fois de l'histoire qu'on aura une Coupe du Monde aussi compacte. Et effectivement, il y a 75 kilomètres entre le stade le plus au nord et à Al Khor et celui qui est le plus au sud à Al Wakra, au sud de Doha. Mais même si on part simplement de Doha et qu'on trace un cercle, tout va se dérouler dans un rayon de 50 kilomètres autour de Doha. Et donc, ça va impliquer aussi beaucoup moins de déplacements pour toutes les sélections, les 32 sélections qui seront présentes au Qatar.
Et est-ce qu'on sait, Eric Silvestro, où l'équipe de France est-ce que l'équipe de France a déterminé un camp de base?
Didier Deschamps et Noël Le Graët viennent de l'annoncer. Ce sera à 9 km, je crois. Nicolas est sur place, il pourra nous confirmer ça, de Doha, donc très proche. Et je crois que c'est le camp de base qu'avaient choisi au départ les Italiens, qui malheureusement pour
pas
eux ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, Philippe disait tout à l'heure, on prend le classement FIFA.
Comme ça qu'on dit,
on prend le classement FIFA pour le chapeau 1. Il manque le numéro 6, puisque c'est l'Italie qui est numéro 6 au classement FIFA et qui n'est pas présent dans ce chapeau. Donc voilà, les Bleus auront un camp de base vraiment très proche de Doha. Doha.
Ils seront dans la grande banlieue de Doha, ouais. En fait, et c'est vraiment un très grand parc. Je suis passé juste à côté ces derniers jours. C'est vraiment à 8 km du centre de la capitale. Et les camps de base sont à la fois, il y a évidemment l'hôtel, mais ils sont aussi associés à des terrains d'entraînement. On ne peut pas les dissocier. Et vraiment, sur ce choix-là, les deux étaient satisfaisants.
Par rapport à ce que vous évoquiez, Nico et Julien, sur le fait qu'effectivement tout est regroupé, concentré finalement sur 50 km au maximum, c'est que je pense qu'on peut se réjouir et on risque d'assister à une Coupe du Monde exceptionnelle. C'est-à-dire que par rapport à ça, je trouve les systèmes de récupération qui seront plus classiques, beaucoup plus simples pour les joueurs.
Il n'y aura pas d'excuses.
Les trajets, cette Coupe du Monde va être jouée en hiver, effectivement, à une période où les joueurs vont être au top de leur forme. Donc je pense très sincèrement qu'en termes de spectacle, on devrait se régaler au cours de cette Coupe
du Monde. La seule petite difficulté, et après on va tourner une première page de pub, Philippe, c'est que les équipes vont arriver sans avoir joué de matchs amicaux, quelque part.
Oui, tout à fait.
La Coupe du Monde se déroule en novembre.
L'équipe de France, par exemple, va disputer 4 matchs au mois de juin. Elle en aura 2 également au programme au mois de septembre. Et ensuite, on aura un trou de 2 mois. Les joueurs seront libérés par leur club, ça c'est une obligation instaurée par la FIFA, une semaine seulement avant le début de la Coupe du Monde, et les équipes, les sélections doivent arriver impérativement 5 jours avant leur premier match. Donc ça ne laisse mathématiquement aucune possibilité pour organiser un match amical. Donc il faudra arriver prêt en fait sur cette Coupe du Monde.
Allez, on remarque une toute petite page de pub et ensuite on devrait avoir, on a un petit peu de retard je crois du côté du Qatar.
L'habitude.
Ça nous arrange pas, il faut le dire, mais il y a un petit peu de retard. On devrait avoir les premières boules tirées, donc on pourra y voir un petit peu plus clair sur les affiches, en tout cas de ce premier tour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort, c'est sur RTL.
RTL Soir, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde. Julien Cellier. RTL Soir, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde. Julien Cellier.
18h48, RTL Soir continue et vous fait vivre en temps réel le tirage au sort du Mondial 2022 au Qatar. C'est en ce moment, l'ancien joueur du Brésil, Cafu, est en train de tirer les premières boules. Alors pour l'instant, quand on vous explique tout, c'est pas très intéressant, Philippe, parce qu'on tire les premières boules des premiers chapeaux, donc on n'a pas encore d'adversité, c'est ça ?
Juste pour déterminer à quel groupe correspondra quelle équipe du chapeau 1. Donc là, on voit ce qui était déjà logique, c'est que le Qatar, pays organisateur, sera dans le groupe A, et on sait déjà maintenant que le groupe B, par exemple, sera mené par l'Angleterre.
Alors, petite question, tiens, autour de la table. Qu'est-ce que ça vaut le Qatar ?
Bah, le Qatar, c'est une nation qui est, pour le coup, en développement. C'est une nation qui est faible. Le championnat tente de se développer. Il y a des entraîneurs qui y sont allés. Un qu'on connaît bien, c'est Laurent Blanc. Bon, il a été remercié assez rapidement. Il y a un champion du monde qui joue là-bas, c'est Steven Nzonzi, qui était rentré lors de la finale face à la Croatie. Et Xavi, qui est aujourd'hui l'entraîneur du FC Barcelone, a longtemps entraîné aussi à Al Rayyan, un club là-bas. Mais disons que c'est le niveau moyen est très très faible. Dans un autre sport, ça avait plutôt réussi, je pense au hand, parce que l'équipe de Qatar avait nationalisé pas mal de joueurs. Il y avait une réussite sur ce mondial-là.
En futsal aussi, d'ailleurs.
En futsal, mais le niveau est quand même globalement faible.
Clairement, toutes les équipes qui sont dans le chapeau 2, 3 et 4 espèrent jouer dans le groupe du Qatar par rapport au groupe 1.
Bien sûr.
Pour caricaturer, oui.
Exactement.
Parce qu'en fait, on parlait du handball, mais c'est vrai que le Qatar, au handball, pouvait naturaliser des joueurs qui avaient déjà des sélections.
Il y avait un Français, d'ailleurs.
Avec l'équipe de France, par exemple. Là, au foot, c'est pas possible. Il faut trouver des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés, donc c'est plus compliqué. Groupe D pour la France, c'est ça ?
Exactement.
Oui, tout à fait. Bon,
ça ne nous dit pas grand-chose pour l'instant. mais en tout cas, on saura qu'on jouera dans le groupe D.
Ils avaient fonctionné de la même façon pour la Coupe du Monde de futsal. L'équipe du Qatar était très difficile à jouer parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient été naturalisés, enfin des Brésiliens qui avaient été naturalisés qatariens. Et du coup, le Qatar avait une très très grosse sélection.
Donc tout le monde espère jouer le Qatar, effectivement.
Quand vous êtes dans les autres chapeaux, évidemment que vous espérez jouer le Qatar.
En 2010, la France espérait beaucoup tomber sur l'Afrique du Sud, qui était le pays organisateur, et on s'est aperçu que c'était pas forcément.
Non.
Pourquoi tu parles de 2010 enfin Philippe,
il faut faire référence à l'ensemble.
Va acheter ton ticket de bus.
C'est effectivement pas le meilleur souvenir. On rappelle les dates de cette Coupe du Monde 2022. Ce sera du 21 novembre au 18 décembre. C'est évidemment inédit. Ça permet, on l'évoquait avec notre invité un petit peu plus tôt, spécialiste du Qatar, d'éviter les très 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 fortes températures. Ce sera quoi la moyenne de degrés au mois de novembre, au mois de décembre, Nicolas Georgerot à Doha?
24-25 degrés.
Oui,
c'est donc a priori, c'est plutôt jouable.
Oui,
on est d'accord.
C'est plutôt jouable.
Il y a eu à l'Euro ou dans d'autres compétitions quand même qui se jouent en juin et en juillet des températures plus élevées encore.
On pourrait ne pas utiliser la clim qui est présente dans tous les stades et qui peuvent régler au degré près de 21 à 26 justement en fonction des besoins des desiderata.
J'ai souvenir par rapport à ce que disait Nico sur la chaleur, le Hongrie-France, là, Budapest,
il faisait une chaleur. 36 degrés.
C'était incroyable.
À l'Euro dernier,
match à 17h.
Donc c'est dire que 24-25, c'est des conditions quasi idéales.
Et la Coupe du Monde en Russie, le premier match des Bleus à Kazan face à l'Australie, c'était aussi très très sec, très chaud, il faisait chaud, c'était lourd.
Donc mais a priori, tout est fait pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Moi, ma question, et on a commencé à l'évoquer avec Philippe tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça change une Coupe du Monde en hiver? C'est vrai que d'habitude, la Coupe du Monde arrive en fin de saison, avec des joueurs qui sont fatigués, qu'il faut remettre en état sur le plan athlétique. Là, on va les sortir de leur club et on va aller jouer une Coupe du Monde.
C'est pour ça que Philippe disait il n'y aura pas de préparation. Mais là, il faut se rendre compte qu'un joueur qui joue dans un grand club européen, la Ligue, par exemple, et qui joue aussi la Ligue des Champions, il aura 20-25 matchs dans les pattes, là où normalement, en fin de saison, ils sont à 60-65. Et le premier pic de forme qui intervient pour les joueurs, c'est novembre-décembre, parce que normalement, c'est les matchs décisifs de poule de Ligue des Champions. Donc je pense que pour les joueurs, ce n'est pas un problème d'avoir qu'une semaine de préparation, puisqu'il n'y aura pas la coupure avant une Coupe du Monde. Normalement, on a un mois de préparation, donc il y a baisse de rythme.
Nicolas, au Qatar.
Oui, une précision, c'est que maintenant qu'on sait que l'équipe de France est dans le groupe D, l'équipe de France croisera avec le groupe C de l'Argentine, et donc peut-être un remake aussi des huitièmes de finale de ce qu'on avait vu, et le fameux 4-3 en Russie. Le Brésil sera dans le groupe G et le Portugal dans le groupe H.
Donc là, on a les premières têtes de série. On va tourner une petite page de pause parce qu'ensuite, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet de ce tirage au sort. On va connaître les premières affiches. Ça va devenir particulièrement intéressant. Donc restez à l'écoute. On se retrouve juste après ça. À tout de suite.
RTL Soir. Julien Cellier. RTL Soir. Édition spéciale. Tirage au sort de la Coupe du Monde.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous vous dites peut-être mais qu'est-ce que c'est que cette drôle de musique sur RTL? C'est l'hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochain. Le tirage au sort, c'est en ce moment et on le vit en temps réel sur RTL avec les voix du foot en studio autour de la table. Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, les voix du foot maison et bien entendu Nicolas Jean-Giraud du côté de Doha au Qatar. Philippe, on entre dans le vif du sujet, on commence à voir les premières affiches.
On ne connaît pas encore l'ordre des matchs, mais on sait d'ores et déjà que dans le groupe A, par exemple, le Qatar aura comme adversaire les Pays-Bas.
Donc là, aux Pays-Bas, c'est la fête, on peut le dire.
Bah, c'est plutôt un bon tirage, effectivement, pour nos amis hollandais.
En France aussi, hein, c'est un gros qu'on évite déjà.
Voilà. La mauvaise nouvelle, mais c'est qu'on pouvait espérer tirer les États-Unis pour l'équipe de France, et ce sera pour l'Angleterre. L'Angleterre sera opposée dans le groupe B aux États-Unis. On va maintenant savoir qui là, l'Argentine va affronter.
Le Mexique, je pense.
Le Mexique avait été tiré.
Ouais, c'est le Mexique.
Le Mexique.
Donc là, le prochain groupe tiré, ce sera le groupe D, ce sera le groupe de la France. Donc allez, dans 30 secondes, on devrait connaître l'adversaire, le premier adversaire en tout cas pour le premier tour de l'équipe de France. Qatar-Pays-Bas dans le groupe A, Angleterre-États-Unis dans le groupe B, dans le groupe C, Argentine-Mexique et donc bientôt le tirage au sort de l'équipe de France.
Le Mexique qui avait battu l'Argentine 3-0 de la dernière Coupe du Monde.
Ça sent bon la Coupe du Monde. De revanche, c'est toujours ce qui est très intéressant dans ces Coupes du Monde. En gros, pour l'instant, nous avons une chance de tirer soit le Danemark, soit l'Allemagne, soit l'Uruguay, soit la Suisse,
Lothar
soit la
Croatie.
Et c'est Lothar Matthäus.
Et c'est un Allemand qui est en train de...
Danemark.
On jouera le Danemark. On jouera le Danemark. Le Danemark est donc le premier adversaire de la France dans ce groupe D. Il faut rappeler à nos auditeurs que le Danemark, ce n'est que des bons souvenirs, n'est-ce pas Eric Silvestro?
Oui, lors des parcours des titres de champion du monde des Bleus, ça sera aussi la belle histoire sans doute de Christian Eriksen, vous savez, qui a repris la compétition et qui a retrouvé la sélection récemment après son accident cardiaque et qui a marqué d'ailleurs lors des deux matchs qu'il a disputés pendant cette trêve internationale avec le Danemark. Donc oui, des retrouvailles plutôt sympathiques pour l'équipe de France.
À chaque fois qu'on a été champion du monde, on avait le Danemark dans nos poules, c'est ça Philippe, non?
Oui, 98 et 2018, alors vous allez dire que je suis aussi l'oiseau de mauvaise augure, mais n'oublions pas non plus qu'en 2002, catastrophe de la Corée du Sud et du Japon, le Danemark était dans la poule de l'équipe de France.
Pour moi, le calendrier, c'était 2001-2003, l'année 2002 n'a pas existé.
Lors de la victoire à l'Euro 2000, donc globalement, plutôt, cette équipe du Danemark...
Ce sera le 26 novembre, le match contre le Danemark, si mes calculs sont bons.
Très bien. Giovanni, dites-nous,
exact.
Ça vaut quoi
le Danemark.
C'est une super nation. C'est une super nation, demi-finaliste de l'Euro quand même. Il y a plein de très très bons joueurs dans cette équipe. Il y avait un des espoirs, une des révélations de cet Euro qui était Damsgaard, un jeune joueur offensif du Danemark, un joueur qu'on connaît bien en Ligue 1 puisqu'il y a Kasper Dolberg qui joue du côté de l'OGC Nice. Donc c'est une très très bonne formation. C'est une formation qui met du rythme, qui met de l'intensité. Il y a de la technique. Ça sera une super opposition pour les Bleus. Je pense que c'est bien d'avoir ce type d'adversaire dans la poule parce que ça permet d'être concentré, ça permet d'avoir une vraie nation pour rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est un bon tirage pour les Bleus.
Et le groupe de la mort se dessine. Ce sera peut-être le groupe E, puisqu'on aura Espagne et Allemagne ensemble dans le même groupe.
Ça va nous donner de très belles affiches. Xavier, je vous voyais soucieux. Le Danemark, ça vous fait peur ?
C'est inquiétant parce que comme l'a très bien dit Joe, en fait, bah après, c'est inquiétant. On évite les Pays-Bas, on évite l'Allemagne. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Le Danemark est régulier, le Danemark est solide. Joe parlait de Kasper Dolberg. Ça fait partie des joueurs forts. Dans l'animation offensive.
Et Benzema.
Évidemment, non, mais c'est solide derrière. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, Simon Kier, qui est passé par la Ligue 1, qu'on connaît bien. C'est une équipe qui est, je trouve, collectivement au point. Donc, qui risque. Et puis, moi, jouer un joueur comme Christian Eriksen, ça me fait toujours un petit peu peur parce que j'ai des cœurs, des étoiles dans les yeux.
Aussi. Dans 30 secondes, ce sera le journal de 19h. Le programme, c'est simple pour vous autour de la table et pour les auditeurs. Le journal de 19h avec le reste de l'actualité. Et ensuite, on reprendra ce débrief tous ensemble. Philippe, juste avant le journal, vous nous rappelez les groupes qui ont été tirés jusqu'ici, les affiches que nous connaissons.
Ouais, évidemment, on va commencer par celui de l'équipe de France qui sera dans le groupe D avec le Danemark, dans le groupe A le Qatar avec les Pays-Bas, dans le groupe B l'Angleterre avec les États-Unis, groupe C Argentine et Mexique, groupe E Espagne et Allemagne, groupe F Belgique et Croatie.
Vous écoutez RTL, voici le journal, il est 19h.
Julien Cellier, RTL Soir.
Tous les autres titres de l'actualité de votre soirée avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Et à la une, il a attendu 12 heures dans la salle des urgences de l'hôpital de Strasbourg, attente qui lui a été fatale.
Un homme qui souffrait d'une hémorragie digestive n'a pas pu être soigné à temps, faute de moyens et de personnel. Colère au CHRU. De la neige en 1er avril, non, ce n'est pas un poisson. Et puis évidemment, on suivra ce tirage au sort à 8 mois du Mondial au Qatar.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
C'est une nouvelle illustration dramatique du manque de moyens à l'hôpital aux urgences du CHRU de Strasbourg. Un homme atteint d'une hémorragie digestive a été pris en charge 12 heures après son arrivée, 12 heures d'attente qui lui ont été fatales, Yannick Holland.
Oui, des personnels soignants présents ce jour-là nous ont confirmé que le patient était arrivé avec une hémorragie digestive qui aurait nécessité une surveillance rapprochée. Malheureusement, toutes les salles de déchocage étaient déjà occupées. Le patient a donc été placé dans ce qui est normalement l'accueil des urgences, transformé en salle de soins car le service déborde. Christian Prudhomme, secrétaire général Force ouvrière des hôpitaux de Strasbourg.
C'est une zone normalement de passage, c'est une zone où on prend des paramètres et où après on aiguille les patients. Et cette zone, elle était remplie de patients qui ne pouvaient aller nulle part parce qu'il n'y avait plus de place.
12 heures d'attente fatale pour ce patient. Lorsque les médecins parviennent à le voir, il est en arrêt cardio-respiratoire. Le drame de trop pour les équipes médicales qui ont déjà fait usage 11 fois depuis le début de l'année de leur droit d'alerte auprès de la direction.
C'est dramatique, mais effectivement, c'est pas si étonnant que ça. Pour nous, le premier responsable, c'est l'institution et l'État. Ça peut pas être les professionnels, parce que les professionnels, que ce soit des médecins ou des infirmiers, ils se coupent en 4, en 8, et la situation s'est encore aggravée. On a aujourd'hui 150 lits qui sont fermés par manque d'infirmières et par manque de médecins.
La direction de l'hôpital a indiqué qu'une enquête interne a été ouverte, mais les syndicats, eux, réclament une enquête indépendante de l'IGAS sur le manque de moyens aux urgences de Strasbourg.
Le reportage de Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. Quasiment 3 semaines après la fin du port du masque obligatoire dans les lieux clos, la tendance est désormais nette. Le Covid repart à la hausse, plus 24% d'admissions à l'hôpital en une semaine et 125 décès ces dernières 24 heures.
Plus que 9 jours pour convaincre. D'après un dernier sondage IFOP pour Paris Match, Emmanuel Macron l'emporterait au second tour avec 53,5% des voix face à Marine Le Pen. Les deux candidats dans toutes les études, de plus en plus dans un mouchoir de poche.
Le chef de l'État dénonçait hier un tandem d'extrême droite qui ne dit pas son nom, reprochant même aux médias de ne pas qualifier clairement d'extrême droite le projet de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National en déplacement aujourd'hui dans le Bas-Rhin. Elle contre-attaque et dénonce une stratégie de rediabolisation de son parti.
C'est assez lourdingue d'ailleurs la manière dont tout ça est organisé. Je pense que lorsqu'on en est à utiliser cette stratégie éculée de la rediabolisation, c'est qu'on n'a rien à dire sur le fond. Or, Emmanuel Macron, il ferait mieux de s'expliquer sur son bilan, qui est déplorable, et éventuellement de débattre idée contre idée. C'est ça qu'on fait lorsque on est à ce niveau-là. On ne se contente pas d'un chapelet d'injures, d'une sorte de catastrophisme qui n'a ni queue ni tête, argument contre argument. Qu'est-ce qu'ils ont à reprocher au projet que je présente pour les Français? Qu'y a-t-il de dangereux dans le fait de rendre aux Français leur pays et de rendre aux Français leur argent? Il n'y a aucun argument.
Marine Le Pen au micro de Marie Mollet pour RTL.
RTL, 19h04. Que vaut ce coup de pression de Vladimir Poutine? Le maître du Kremlin veut que les consommateurs de gaz russe payent en roubles.
En cas de refus, les pays dits inamicaux, comprenez les Occidentaux, verraient leur contrat stoppé. Pas de panique, nous dit ce soir la ministre de la Transition écologique, terrain d'entente en vue, Éric Vanier.
Oui, Barbara Pompili, auditionnée par les députés, s'est voulue rassurante. Selon le compromis qui est en train de se dessiner avec Moscou, les pays européens pourront bien continuer à payer leurs achats de gaz en euros ou en dollars, mais uniquement en passant par la filiale bancaire de Gazprom, épargnée par les sanctions internationales, à charge pour Gazprom Bank de convertir en roubles la facture énergétique des pays occidentaux. Pour la ministre de la Transition écologique, ça devrait suffire à apaiser les tensions.
Les informations que nous avons reçues de Moscou ces derniers jours et heures tendent à nous laisser penser qu'à ce stade, nous n'avons pas de risque de rupture de ces contrats si effectivement cette solution est la solution qui est mise en œuvre. Et donc, a priori, pas de rupture des importations russes de gaz.
Vladimir Poutine aura donc ses roubles via Gazprom, mais ça ne viendra pas directement de la poche des Européens, ce qui permet aux deux parties de sortir la tête haute de ce bras de fer.
Les explications d'Éric Vanier du service économie de RTL sur le front au 37e jour de guerre en Ukraine. La ville de Mariupol assiégée mais toujours pas évacuée. La Croix-Rouge n'a pas pu mener l'opération faute de garanties sécuritaires. On l'a appris il y a une heure, un échange de prisonniers a eu lieu entre Ukrainiens et Russes. 86 militaires ukrainiens dont 15 femmes libérées.
Autre chiffre, 36 000 c'est le nombre de réfugiés accueillis en France d'après le dernier bilan donné par le gouvernement. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit le proverbe, plus vrai que jamais, dès le 1er avril, avec ce retour brutal du froid, de la neige la nuit dernière, et ce n'est pas terminé.
Oui, vigilance orange maintenue dans 19 départements jusqu'à dimanche matin. Partons dans la forêt d'Écouves, dans le sud de l'Orne, qui a passé la journée emmitouflée dans un manteau blanc. Esteban Pinel, vous vous êtes rendu dans la commune de Cercueil, où les travailleurs de chantier ont dû s'adapter.
C'est une vieille maison condamnée depuis les années 40 que Marianne entreprend de vider depuis quelques mois.
J'avais pris une semaine de congé au mois de janvier et on avait super soleil. Mais je crois me souvenir que l'année dernière, le 7 avril, il avait neigé déjà.
L'histoire se répète et pas qu'un peu, raconte Marceau, venu prêter main forte aux travaux.
Des gros flocons, assez denses quand même. Si tout était resté au sol, on aurait eu 10 cm sur. Là, c'est ce qui reste, 3 cm. Même si c'était prévu, c'est assez inattendu quand même.
Les travailleurs ont troqué la tenue printanière contre un bonnet et un manteau bien chaud. Les allers-retours dehors se font au pas délicat de la marche dans la neige. Bien sûr, le froid pique un peu.
Ça tombe encore. Comme nous, on bouge, ça réchauffe. Par contre, dès qu'on s'arrête un petit peu, on a les extrémités, les pieds et les mains qui se refroidissent assez vite.
Mais au fond, cette première journée blanche d'un hiver retardataire se fait pardonner.
Moi, j'adore la neige. J'ai aucun problème pour travailler pendant la neige. J'adore ça. C'est un paysage que j'adore.
La neige, ça adoucit un peu tout. L'hiver, on était passé à côté. Maintenant, nous voilà dans l'hiver. Un peu tardive, mais on est dedans. Faut en profiter.
Il aura neigé toute la journée sur le village. Le chantier aura tourné au ralenti, mais comme le disent nos travailleurs, la neige cache tout ce qui reste à faire.
Le reportage d'Esteban Pinel dans l'Orne pour RTL.
Dans le journal de Aude Vernuccio. Merci beaucoup Aude. On vous retrouve bien entendu à 20h à Mot du Temps. Donc la neige encore, toujours, chère Céline.
Oui, pour demain. Alors ce soir sur les Pyrénées, le Massif central. Et pour demain, elle va se situer entre les Pyrénées, le Massif central, le flanc est et les Alpes, avec toujours ces 19 départements en vigilance orange. On va avoir le retour quand même d'éclaircies par l'ouest, avec un ciel quand même un peu mitigé, hein, toujours des averses entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire pour demain après-midi. De la neige qui va tenir quand même au sol au-dessus de 300 mètres d'altitude, donc sur les reliefs, dans les villes, sur les plaines, 2 à 5 cm le matin. Et puis l'après-midi, on va retrouver ce régime de pluie-neige comme aujourd'hui. On n'oublie pas le vent qui va encore bien souffler, ce qui va donner une ambiance très hivernale, avec des gelées pour demain matin quasi généralisées. Il n'y a que le pourtour méditerranéen qui va s'en sortir. Et puis demain après-midi, encore bien froid, on reste largement sous les valeurs de saison.
Merci Céline. Allez, on va marquer une petite pause et ensuite, bien entendu, on va continuer de vivre le tirage au sort du Mondial 2022 au Qatar en direct, en temps réel. C'est en ce moment et on vient à l'instant, à la seconde près, là, de connaître un nouvel adversaire de l'équipe de France, cher Philippe
Sanfourche. Oui, on connaît désormais deux des trois adversaires de l'équipe de France. Le nouveau, c'est la Tunisie, donc ce sera France-Danemark et France-Tunisie. Le premier match, eh bien, on va découvrir ça dans quelques instants.
On commence à y voir un petit peu plus clair sur les différentes affiches, sur les différents groupes. On marque une petite pause et on va clore en quelque sorte ce tirage au sort avec les voix du foot de RTL. À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, spécial tirage au sort de la Coupe du Monde, Julien Cellier.
19h10, vous écoutez RTL, l'hymne de la Coupe du Monde 2022 au Qatar résonne parce que le tirage au sort c'est en ce moment là-bas à Doha et on le vit en temps réel depuis maintenant trois quarts d'heure sur RTL avec les voix du foot maison, avec ici en studio Philippe Sanfourche, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et depuis Doha l'envoyé spécial Nicolas Georgerot. Philippe, on refait un point parce que le tirage a bien avancé pendant le journal de 19h et on y voit maintenant beaucoup plus clair.
Oui, on sait que l'équipe de France va donc évoluer dans le groupe D. Elle était tête de série dans le chapeau 1 et on connaît deux de ses adversaires qui seront le Danemark et la Tunisie. L'équipe de France jouera son deuxième match le 26 novembre face au Danemark et son dernier match, peut-être celui déterminant ou alors celui qui comptera peut-être pour du beurre si le travail a été bien fait jusque là, face à la Tunisie. Ça, ce sera le mercredi 30 novembre.
On fait un petit point sur les autres groupes, ce que l'on en sait pour l'instant.
Et on sait que le Qatar, le pays organisateur, va être opposé déjà au Sénégal et aux Pays-Bas. Donc ce sera difficile pour ce pays organisateur. On peut dire que sur le papier, l'Angleterre a plutôt un bon tirage.
Oui,
avec
on doit trinquer dans les pubs là ce soir.
L'Iran et les États-Unis.
On peut le dire.
Iran, États-Unis, il y a plus
c'est
compliqué.
C'est facile. Ouais, je suis désolé. Demi-finale à la Coupe du Monde 2018 et finaliste à l'Euro. S'ils sortent pas de cette poule.
On avait essayé de leur donner l'Euro en jouant tous les matchs à Wembley. Ouais, mais
rien n'est simple pour les Anglais. Rien n'est simple pour les Anglais.
Alors le groupe C maintenant, cher Philippe.
L'Argentine avec le Mexique et la Pologne. Donc ça, c'est assez dense comme groupe.
C'est un beau groupe de Coupe du Monde, ça.
On a un groupe également, le groupe E, avec une très belle opposition entre l'Allemagne et l'Espagne. Ce sera un des chocs de ce premier tour. Le Japon complétera ce groupe E. Dans le groupe F, la Belgique avec le Maroc et la Croatie. Là aussi, c'est assez dense. Le groupe G composé du Brésil, de la Serbie et de la Suisse. Et enfin, le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud.
Alors, je voudrais votre avis, les amis, sur le groupe de l'équipe de France qui, ça y est, maintenant est clos. Qu'est-ce que c'est que ça ? ICP1. Ah oui, donc il y a une dernière équipe dans le groupe de la France. C'est un adversaire dont on ne connaît pas le nom. C'est ça,
oui,
Philippe ?
C'est par rapport au play-off qu'on expliquait par rapport aux zones. Alors ça ne sera pas le barrage qui opposera le Pays de Galles face soit à l'Écosse ou à l'Ukraine, puisque c'est un barrage FIFA qui a été tiré. Donc c'est soit la nouvelle...
Alors, c'est soit Pérou, Émirats Arabes Unis, Australie, soit Costa Rica, Nouvelle-Zélande.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Je ne peux pas vous
quoi
en dire plus
arrive,
pour l'instant.
Quoi qu'il tirage arrive. Tirage abordable pour l'équipe de France pour ce chapeau 4.
C'est très abordable, Eric, en fait.
Et la Tunisie, il faut savoir que...
Alors, qu'est-ce que ça vaut, la Tunisie ? Dites-nous tout.
La Tunisie, franchement, n'est pas une équipe impressionnante. Elle a eu beaucoup de difficultés pour se qualifier, pour prendre le dessus sur le Mali dans le barrage. Par rapport au Maroc, par exemple, au Sénégal ou au Cameroun, qui étaient d'autres équipes potentiellement tirables pour la France dans le continent africain, la Tunisie est sans doute un des plus faibles pays du continent africain.
Il y a des joueurs de valeur. C'est une équipe très structurée, très défensive, très rugueuse. Il y a un grand joueur de talent, on le connaît, il joue en Ligue 1, il joue à Saint-Etienne, c'est Wahbi Khazri. Il faudra se méfier, mais sinon c'est plutôt une équipe rugueuse. Voilà, on peut la décrire comme ça.
Franchement, ouais, dans le match 3, c'était
Nicolas Georgerot, à Doha au Qatar, vous connaissez par cœur le programme, vous avez tout anticipé. Dites-nous tout, ça va se passer comment ? Quelle date déjà pour l'équipe de France ?
Alors pour l'équipe de France sur le déroulé de ces rencontres sur le premier groupe.
Exactement.
Le premier tour, vous voulez dire. Eh bien ce sera le mardi 22 novembre donc face à un barragiste. Ensuite le samedi 26 novembre ce sera face au Danemark et puis ensuite donc la Tunisie le mercredi 30 novembre et on connaît à l'instant le match d'ouverture qui se déroulera à Al Khor à 43 km au nord de Doha dans un stade de 60 000 places. Ce sera le Qatar face à l'Équateur.
On a quand même connu plus sexy comme ouverture de Coupe du Monde. En un mot, Xavier Domergue, avant de rendre l'antenne à Amandine Bégaud qui va continuer de parler foot avec tous ses camarades de la presse étrangère. Xavier, on a un groupe clairement abordable, le Danemark, la Tunisie, un barragiste qui ne sera pas un foudre de guerre. Est-ce que c'est important d'avoir un groupe très abordable pour monter en puissance dans une Coupe du Monde, ou quelque part est-ce qu'il vaut mieux d'ores et déjà dès le premier tour avoir de gros adversaires?
Il y a deux écoles, je trouve qu'il y a deux écoles. On a eu à l'Euro le cas inverse, c'est-à-dire qu'effectivement c'était peut-être la première édition d'un grand tournoi depuis de longues années qu'on n'avait pas pu se mesurer à de grandes nations du football comme le sont le Portugal et l'Allemagne, comme l'étaient les Portugais et les Allemands. Donc là c'est un tirage bien plus clément. Maintenant moi je reste méfiant parce que le Danemark, on l'a dit, collectivement c'est une équipe qui produit quelque chose d'assez abouti, et la Tunisie, il faut pas, les Tunisiens, ils ont été au moins quart de finaliste de la CAN depuis 2006 je crois, quasiment. Donc voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien, c'est une équipe, tout le monde, tous les joueurs se connaissent, donc il va avoir une motivation spéciale particulière. Je pense que ça va être un match vraiment pas évident à négocier. Après c'est un groupe ouvert, mais ça nous permet de monter en puissance petit à petit.
On a quand même compris que parmi tous ceux autour de la table, vous êtes le méfiant de la bande.
Oui,
c'est
un peu
ça. C'est le sage.
Mais bien sûr.
C'est le moins optimiste. Mais alors que Eric, il nous voit déjà en demi-finale.
Mais non, au moins en huitième, c'est sûr.
Attention, en fait, ce qui compte, c'est le tirage ensuite. Les croisements, on parlait de l'Argentine éventuellement en huitième. C'est ça qui va compter. Il y aura peut-être l'Angleterre en quart si ça poursuit derrière. Voilà, c'est là où ça va compter.
Bon, les amis, on vous retrouve tout à l'heure.
Sur l'identité du. Juste précisément sur l'identité du barragiste. Australie, Émirats arabes unis ou Pérou, autrement dit, là aussi peut-être des retrouvailles par rapport à 2018 pour la France qui avait joué l'Australie et le Pérou au premier tour.
On connaît parfaitement le groupe de l'équipe de France, ce sera France, Danemark, Tunisie et donc un barragiste, soit le Pérou, soit les Émirats arabes unis, soit l'Australie. Groupe très abordable. On a suivi ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec vous, les Voix du Foot sur RTL, mais vous restez dans les parages, dans les studios, bien vous sûr. Ne partez pas parce qu'on vous retrouve tout à l'heure à 20h avec grand plaisir. En attendant, 19h16, c'est Amandine Bégaud qui est entrée en studio pour la suite. Ils refont la France, ils refont un peu aussi le mondial.
Mais
Amandine.
Oui, on va refaire le mondial puisqu'on a une Portugaise, une Allemande, un Anglais et un Italien.
Bon, le pauvre italien. Vous allez chambrer, j'espère. Oui, très bien. Allez, on vous retrouve juste après ça, tout de suite.